Alors ce matin, je vais continuer dans la série que j'ai entamée il y a quelques semaines sur la vulnérabilité, sur le thème de la vulnérabilité. Donc ça sera le quatrième et dernier message. Rassurez-vous, pour ceux qui en auraient peut-être un peu marre, qui trouveraient que ce n'est pas très positif, j'espère pas quand même. Bon, ne pensez pas non plus que j'aborde ce thème-là parce que je me sens vieux ou proche de la retraite. Enfin bon, de toute manière, c'est un thème qui nous concerne tous, je pense, enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un ici qui soit peut-être un ange ou qui se soit incarné dans un corps, j'en sais rien. Mais enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, voilà, vous devez, comme moi peut-être, à partir d'un certain âge, ressentir des petites douleurs au dos quand vous soulevez du poids. Vous allez peut-être un peu plus souvent chez le dentiste. Je vois que pas mal ont des... Non. Personne n'a des lunettes, apparemment. Oui, je vois que vous en avez tous, c'est bien, voilà. Donc, etc. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Alors, aujourd'hui, donc, voilà, le thème de la vieillesse, effectivement, mais il faut l'aborder. Et d'ailleurs, la Bible en parle, je le dis souvent, mais la Bible est très, très réaliste. Et elle nous donne un regard intéressant, un regard nouveau, justement, sur ces questions-là. Alors, on va lire ensemble deux textes. Le premier qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste ou Coëlète, vous verrez, peut-être certains se posent des questions, pourquoi dans certaines Bibles il y a écrit Coëlète, ça veut dire bien le prédicateur, si vous voulez, hein, celui qui dit des choses voilà, importantes, l'Ecclésiaste aussi, en général dans les Bibles secondes. Et puis on lira un autre texte après dans le Nouveau Testament. Donc d'abord, ce texte dans Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 8. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 8. « Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que viennent les jours du déclin et le moment où tu diras « Je n'ai pas de plaisir à vivre ». Quand s'assombrissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie, alors les gardiens tremblent de peur, les hommes vigoureux se courbent, les meunières cessent de moudre, trop peu nombreuses, ceux qui observent par la fenêtre n'y voient pas clair, la porte se referme sur la rue, le bruit du moulin baisse, le chant de l'oiseau s'éteint, toutes les chansons s'évanouissent, on a peur de gravir une pente, on a des frayeurs en chemin, les cheveux blanchissent, ça je sais de quoi je parle, comme l'aubépine en fleur, l'agilité de la sauterelle fait défaut, les épices perdent leur saveur. Ainsi, chacun s'en va vers sa dernière demeure. Et dans la rue, les pleureurs rôdent en attendant. Alors le fil d'argent de la vie se détache, le vase d'or se brise, la cruche à la fontaine se casse, la poulie tombe au fond du puits, le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré, et le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. « Tout n'est que fumée », dit le sage, Coëlète, hein, l'Ecclésiaste, « tout part en fumée ». Ça plombe un peu, hein, enfin bon, c'est aussi une réalité. Deuxième texte dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par des mains humaines, qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être revêtus de notre habitation céleste. Si du moins, une fois dévêtus, nous ne nous sommes pas trouvés nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente provisoire, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être dévêtus de notre corps terrestre, mais nous souhaitons revêtir par-dessus le corps céleste, afin que ce qui est mortel soit comme absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a préparés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. On respire un peu, on se dit, il y a une espérance. Je continue, nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous vivons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur, mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra de lui ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait, en bien ou en mal. Voilà donc ces deux textes qui vont nous servir de méditation ce matin sur ce sujet de la vieillesse ou du grand âge, si on veut employer des expressions plus douces et plus jolies. D'abord, je voudrais juste retracer, pour illustrer mon propos, le fameux film The Straight Story, ou L'Histoire Vraie. Je ne sais pas si certains l'ont vu, je crois qu'il est sorti en 1999, ce film. Alors, j'ai mis le film de ma vie parce que je pense qu'on peut chacun plus ou moins se retrouver dans cette histoire. Donc, ce film en français, donc Une Histoire Vraie... Il y a un jeu de mots, en fait, avec le vrai héros de cette histoire, parce que c'est une histoire vraie, qui s'appelait Alvin Straight. Donc, ils ont fait un jeu de mots avec ça, parce que ça veut dire droit, straight, donc vrai. On pourrait traduire une histoire authentique. Hein, si je parle sous le couvert de nos anglophones, là, une histoire vraie, une histoire authentique. Hein. Donc, cet homme, Alvin Straight, a vraiment vécu ça. Alors je retrace simplement, hein, pour illustrer mon propos. Il apprend que son frère, qui habite à plus de 500 km, à qui il ne parle plus depuis de nombreuses années, a eu un AVC. Et donc, ça fait déjà des années qu'ils ne se parlent plus. Peut-être ils sont fâchés, 20 ans à peu près. Et donc là, tout d'un coup, l'envie lui prend d'aller le trouver, sauf que lui-même, il est très vieux. Il a eu des problèmes de santé, il n'a pas le permis, on lui a retiré le permis. Comment il va y aller, quoi. Et alors, bon, une idée saugrenue lui prend. Il va réparer sa tondeuse autoportée, sa grosse tondeuse, et il va y aller. Mais c'est vrai, en plus, c'est ce qu'il dit. Et il va y aller avec sa tondeuse autoportée. Il se construit une remorque, et puis il met tous ses bagages dedans, et le voilà parti. Bon, sa tondeuse, elle tombe en panne, il faut qu'il en rachète une. Et puis finalement, dans tout ce périple, il va rencontrer pas mal de personnes. Et c'est là tout le piment de l'histoire. Il rencontre donc des gens très différents à qui il va, par sa simplicité de vie, finalement, prodiguer des encouragements et lui-même être encouragé. Il va rencontrer une ado enceinte qui s'est enfuie de chez ses parents, un rassemblement de cyclistes, une femme qui vient d'avoir un accident de voiture, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un prêtre, enfin bon, des gens très différents. Puis finalement, il va arriver à destination... renouvelé, enrichi par toutes ces rencontres qu'il a faites tout au long de son périple. En réalité, même si la fin du film, bon, il y a un happy end, il se retrouve, il se réconcilie, en réalité, le film s'arrête là, mais tout le film, c'est le périple de cet homme-là avec sa tondeuse autoportée. Et finalement, le cœur du film, c'est que, au travers de ce périple, donc, il va, cet homme-là, se décentrer de sa morosité, si vous préférez, du vieillard cacochime qu'il était, toujours aigri, toujours énervé, pour s'ouvrir à nouveau à la vie offerte, c'est-à-dire aux autres. Alors, est-ce que notre vie ressemble peu ou prou à cette histoire ? Ben, un peu quand même. Je crois que, en dépit de toutes les vicissitudes de la vie, des épreuves, des peines, des échecs et frustrations que nous avons tous, Est-ce que notre vie n'est pas aussi remplie de rencontres inattendues, des rencontres qui nous ont enrichis, où nous avons été encouragés, ou sur le plan spirituel, chrétien, édifiés, sans l'avoir recherché, mais aussi des rencontres qui nous ont permis aussi de bénir des personnes et d'être pour ces personnes-là source d'encouragement. Alors finalement, ce film illustre magistralement l'un des plus grands dangers du vieillissement. C'est l'inverse de ce qui aurait pu se passer pour le pauvre Alvin Straight, hein, s'il était resté chez lui. C'est l'isolement. L'isolement et son jumeau, le sentiment d'inutilité. Parce que la vieillesse, le danger dans la vieillesse, c'est bien ça. C'est le repli, la contraction du soi, finalement, qui finit par nous déconnecter complètement de la réalité sociale et culturelle qui nous entoure, la coupure avec toute forme de relation. Or, la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Elle le dit, bien sûr, dans le cadre, on est d'accord, hein, d'un homme et d'une femme, mais globalement, nous sommes des êtres pour vivre en société. On a besoin de ça. Hein ? On a besoin de ça, on a besoin de s'encourager, on a besoin de pleurer sur l'épaule de quelqu'un, de lui dire notre peine, de témoigner aussi inversement de ce que Dieu a fait dans notre vie, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et en faisant ça, on s'ouvre, évidemment, on se met un peu, entre guillemets, en danger, parce qu'on ouvre son cœur, mais en même temps, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Ça, c'est la vie. C'est la vie. La vieillesse donc peut malheureusement nous conduire à cet état inverse où on finit par répéter, oui, avant c'était mieux. Ça tombe bien, j'y étais justement, ben c'était pas mieux. Avant c'était mieux. À quoi bon ? Bof, ouais. Voilà. Alors, toutes les personnes, vous savez, qui travaillent pour le bien-être de la santé mentale des personnes âgées, elles vous le diront. Ce qui est le plus important pour ces personnes âgées, c'est de favoriser le lien social avec elles. Parce que le besoin fondamental pour les personnes âgées, c'est de voir qu'elles comptent pour autrui. C'est pour ça que l'Église aussi, pour les seniors ou les gens qui sont dans le grand âge, peut jouer aussi ce rôle-là. Il n'y a rien de plus terrible que de voir des chrétiens aussi, parfois, enfin, n'importe qui, mais des chrétiens, qui plus est, ça semble encore moins normal, je dirais, finir seuls, pas visités par des chrétiens, sans église, sans rien. Je trouve ça aberrant, incroyable. Bien avant les conclusions de la médecine moderne et de ce que nous disent les gérontologues, ceux qui travaillent auprès des personnes âgées, le texte qu'on a lu tout à l'heure de l'Ecclésiaste nous décrit effectivement ce que peut produire un vieillissement sans espérance. Un vieillissement finalement incontrôlé, ce que l'Ecclésiaste nomme dans ce texte « vieillir sous le soleil ». Vieillir sous le soleil, c'est-à-dire sans aucune espérance, sans foi. Vieillir comme tout le monde, mais sans avoir vraiment le soleil du Seigneur dans sa vie, finalement. Alors, regardons de plus près ce texte qu'on a lu au verset 1. L'Ecclésiaste nous dit, pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que viennent les jours du déclin et le moment où tu diras « je n'ai pas de plaisir à vivre ». Effectivement, là, on est devant la lucidité absolue, hein, la réalité. Voilà, c'est ça, vieillir sous le soleil, ben, « je n'ai pas de plaisir à vivre ». Qu'est-ce que peut m'apporter la vie ? Et ça me rappelle un sermon d'un certain Bossuet, alors bon, vous le connaissez peut-être pas, qui était un grand orateur, un grand prédicateur en son temps, qui a écrit un sermon sur la brièveté de la vie. Il dit ceci, « J'entre dans la vie avec la loi d'en sortir. En cette pensée de la brièveté de la vie, je louerai Dieu et je mettrai de l'ordre à mes affaires avec courage et diligence. » On a entendu tout à l'heure le psaume 51. Donc je mettrai de l'ordre dans mes affaires avec courage et diligence, c'est-à-dire avec empressement, pensant non pas à ce qui passe, mais à ce qui demeure. Le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est un texte de l'épître dans Jean, je crois. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les versets 2 et 5 de cette description sont bien une image des déficiences et des pertes d'autonomie. Ces fameux handicaps liés au grand âge qui sont décrits sous la forme d'images, où on voit que toutes les facultés physiques sont affectées, la vue, l'ouïe, l'odorat, la mobilité, l'équilibre, les cordes vocales, les fameux... On sait qu'à un certain âge, on n'arrive plus à chanter aussi haut. La chevelure, la souplesse, la force, le goût, etc. Alors la conclusion du texte, de ce texte, ne donne pas beaucoup d'espoir ni d'encouragement, les versets 5 et 6, où il nous est dit « Chacun s'en va vers sa demeure, vers sa dernière demeure, et dans la rue, les pleureurs rôdent en attendant. Alors le fil d'argent de la vie se détache. » Alors il y a toute une suite là d'images pour montrer la fin d'une chose. Le vase d'or qui se brise, la cruche à la fontaine qui se casse, la poulie qui tombe dans le puits. Donc toutes ces images-là sont là pour nous montrer qu'il y a eu un terme à ce qui fonctionnait avant. Et puis il termine de façon assez désabusée, « Tout n'est que fumée, dit le sage, tout part en fumée. » Alors, bien sûr que nous devons prendre acte de cette réalité. La vie chrétienne ne se vit pas en dehors de cette réalité, de la vie telle que nous la vivons ici, avec ses limites et cette vulnérabilité. Cependant, dans ce corps, dans ce vase d'argile, dans cette fragilité qui nous est, native, qu'on a dès qu'on vient à l'existence, il est possible de vivre aussi jusqu'à notre souffle, nous qui connaissons le Seigneur, qui sommes chrétiens, une croissance spirituelle continue jusqu'à notre dernier souffle. Sortons-nous de la tête cette idée que parce que nous n'aurions plus l'énergie nécessaire, l'énergie physique, l'énergie peut-être mentale aussi, que nous aurions besoin de plus de repos, bien ne pensons pas que nous deviendrions inutiles pour le royaume de Dieu. Bien au contraire. Sachant que de toute façon, notre corps infirme ressuscitera plein de force, c'est Paul qui le dit. Et je voudrais dire que cette réalité en question, si bien décrite par l'Ecclésiaste, c'est la réalité qui est vécue sous le soleil, c'est-à-dire sans espérance, sans foi, et surtout sans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Or nous, cette espérance qui est en nous, elle nous réchauffe, elle réchauffe notre cœur, elle nous encourage à persévérer dans la foi et à continuer à porter du fruit jusque dans notre blanche vieillesse. Et pour cela, je voudrais lire le psaume 92, versets 13 à 16. « Mais le juste pousse droit comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la maison du Seigneur, il s'épanouit dans les cours du temple de notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève. » Il est parlé du juste là. « Ses feuilles sont toujours vertes. Il est la preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour, lui mon rocher. » Donc vieillir, c'est encore vivre. Amen. Et la vie chrétienne, elle ne s'arrête pas à 60 ans ou à la retraite. La vieillesse est un âge à part entière. Ce n'est pas la fin de tout. C'est un âge. Ce n'est pas une parenthèse ou la salle d'attente avant d'entrer dans l'éternité. Oui, c'est vrai, on n'est plus près, mais bon. Et alors, plus près de quoi? Plus près de toi, Seigneur. Mais c'est un âge comme un autre, comme peut l'être toutes les périodes de la vie, l'enfance, l'adolescence, la vie adulte. C'est pour ça qu'il faut respecter les gens âgés. C'est même une période de la vie très importante où on transmet. Voilà, c'est un autre point que je voudrais souligner. On transmet quoi ? La sagesse, l'expérience, la pondération, la patience, mais pas que. Il ne faudrait pas non plus caricaturer la personne âgée qui serait toujours en train d'appuyer sur le frein. Pas forcément, l'enthousiasme aussi. Oui, l'enthousiasme. Alors, c'est vrai que ça demande pour les gens âgés une certaine ouverture. C'est le danger que je disais tout à l'heure du repli. Le danger du repli, effectivement. Ou du « avant, c'était mieux ». C'est Michel Serres qui a écrit ce livre, « Avant, c'était mieux ». Il dit justement, ça tombe bien, j'y étais. Eh bien, avant, on mourait de ci, on mourait de là. Il y avait des gens très sympas qui trucidaient des millions de gens. Avant, c'était mieux, ouais. Mais je ne crois pas. À chaque âge, il y a des choses à découvrir, de belles choses. Et donc, nous transmettons, à ce moment-là, nous avons ce devoir de transmission aussi, de passage de relais. Tiens. Lisons ensemble le psaume 71, versets 9 et 17, 18. Ne me laisse pas maintenant que je vieillis, quand je perds mes forces, ne m'abandonne pas. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Maintenant, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, ne m'abandonne pas, mon Dieu. Alors j'annoncerai ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et aux personnes qui viendront après eux. Sympa comme mission, hein, de transmission. Il y a du boulot là, puis une responsabilité. Alors, plusieurs images pourraient nous aider pour mieux appréhender justement ce fameux grand âge et nous encourager aussi, des choses positives. Alors moi, dans mes lectures, j'ai relevé trois images intéressantes pour parler du grand âge. C'est l'image du contenant et du contenu. Ça, c'est Linda Hoyer qui dit ça dans un article. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que dans notre jeune âge, on est plus tourné vers l'extérieur. Avant l'âge de la vieillesse, c'est vrai, notre vie, elle est tournée vers l'extérieur. Les études, le travail, la maison, la famille, on construit une maison, etc. On a des projets, il en faut. Et avec l'âge, c'est plus l'intérieur, le contenant qui prend plus de place. Parce que, bien évidemment, on a été un peu malmené, on a eu peut-être des pertes, et du coup, nous sommes invités à porter notre regard vers le contenu, l'intérieur. Et parce que le contenant a pris quelques coups, quoi. On a pu peut-être perdre son travail, un deuil, la maison, j'en sais rien, une inondation, enfin bon. Et du coup, on est plus tourné vers le contenu, vers des réalités. Peut-être qui nous semble plus essentiel à ce moment-là. Quel est le sens de la vie ? On interroge à nouveau frais nos priorités. Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On fait des bilans. C'est normal. Donc ça, c'est la première image que je trouve intéressante. Le contenant, contenu, extérieur, intérieur. Deuxième image, c'est la maturité d'un fruit. Bien, un fruit, ce n'est qu'au moment de sa pleine maturité qu'il doit être cueilli et qu'il est alors détaché de la branche où il est accroché. Alors c'est vrai que parfois le Seigneur semble tirer un peu plus fort sur ce fruit qui a du mal à se détacher. Mais dans tous les cas, la vieillesse nous conduit à ce temps où Dieu va venir nous cueillir, dans le bon sens du terme. Voilà. Mais il faut qu'on arrive à maturité. Je trouve cette image intéressante aussi, la maturité du fruit. La vigne. Bien, la vigne, c'est à l'automne que les fruits, les raisins, ne font plus rien. Attention, ils ne font plus rien. Il se contente, entre guillemets, de s'exposer au soleil et ainsi de mûrir avant d'être récolté et de devenir, pour d'autres, une source de joie. C'est une image de Anselm Grun, qui est décédé, je pense, maintenant, un moine qui a écrit des livres de spiritualité populaire. Et c'est lui qui donne cette image-là, et je la trouve vraiment très intéressante. C'est vrai qu'arrivé à un certain âge, eh bien, on s'expose davantage au Seigneur, dans le sens qu'on a davantage les mains ouvertes que les mains en train de travailler ou de faire des choses, et donc on s'expose davantage à la lumière du Seigneur pour nous éclairer. Alors, nous avons, frères et sœurs, une espérance, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi pour ceux qui avancent dans l'âge et qui peut-être se sentiraient, j'en sais rien moi, peut-être inutiles, sentiment d'impuissance, d'inutilité, oui, ben bannissez cette idée de votre tête, parce que c'est faux. Vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Les enfants nous regardent, et quand on voit, par exemple, eh bien, un couple âgé qui se tient la main dans la rue, ça dit quelque chose, surtout dans notre monde actuel. Ça dit quelque chose. Donc nous témoignons, oui, nous témoignons et nous avons vraiment une responsabilité dans la transmission. Oui, nous avons une espérance, et c'est même cette espérance qui est le carburant de notre engagement pour servir le Seigneur sur terre, et c'est tout le sens du texte qu'on a lu, le deuxième texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 4 à 5. Je ne vais pas commenter ce texte-là parce qu'il est tellement riche, complexe aussi, mais surtout les versets 4 et 5 où il est dit « Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente provisoire », alors tente provisoire, c'est l'image de notre corps, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être dévêtus de notre corps terrestre. Donc, vous voyez, c'est pas une sorte de rejet du corps. C'est pas ça. Hein. Mais comme il y a cette espérance, nous souhaitons revêtir par-dessus le corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et c'est Dieu lui-même qui nous a préparés à cela. Et il nous accorde son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Donc Paul n'est pas dans une attitude défaitiste, maintenant ça sert, je ne sers plus à rien et tout ça. Il est dans cette espérance, et cette espérance qui nourrit sa mission, son désir de le servir et de porter du fruit. Je voudrais souligner le verset 5, c'est Dieu lui-même qui nous a préparés à cela. Et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Préparé à cela, préparé à quoi précisément? Ben, le verset 4 qui nous éclaire, qui nous décrit une vie chrétienne qui, tout en étant certes contraint par ses limites, cette vulnérabilité, ce corps vulnérable, cette vie de foi, elle est appelée à se développer dès ici-bas par l'Esprit Saint pour revêtir ultimement le corps céleste à la résurrection. Et donc nous sommes encouragés à vivre en conséquence de cette espérance. Ce n'est pas que nous voudrions être dévêtus, nous dit l'apôtre Paul, de notre corps terrestre, mais nous souhaitons revêtir par-dessus le corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Donc voilà le moteur de nos vies. Pour conclure, je voudrais terminer avec ce texte d'1 Corinthiens 15, verset 58, qui nous encourage à persévérer en nous disant que notre travail ne sera pas vain. Ainsi, mes chers frères et sœurs, montrez-vous ferme et inébranlable. Soyez toujours, toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur. Vous entendez? Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur. Personne dans l'Église ou dans le royaume de Dieu n'est inutile, frères et sœurs. Personne. Puisque vous savez que la peine que vous vous donnez en union avec le Seigneur n'est jamais perdue. Toujours plus actifs. Mais comment est-ce possible, Seigneur, à mon âge? Peut-être tu dis ça ce matin. Mais si, si, si. Le Seigneur va te donner des missions. La mission de la transmission. Et ça, c'est important, le passage de relais. Regarde l'exemple d'Abraham et de Sarah. Attention, je ne vous fais pas des promesses que vous allez à 100 ans enfanter des enfants. Hein. Raison gardée. Mais regardez la promesse. Quelle ouverture, quelle vie, quelle perspective. Quitte la maison de ton père et puis après tu vas là, puis tu vas aller là. Il fallait quand même qu'il soit ouvert, qu'il ait une ouverture d'esprit quand même. À leur âge, bon, ils ont ri au départ. Et puis après, ils ont continué à rire, mais de joie. Ils ont regardé dans leur enfant le rire du Seigneur. Dieu nous appelle, frères et sœurs, à nous ouvrir à l'émerveillement, à la nouveauté, à l'imprévu, quel que soit notre âge. Ne nous enfermons pas dans nos préjugés, nos a priori, comme si nous avions la science infuse. Oui, mais je sais. Oui, mais c'est la tendance un peu, c'est le danger quand on arrive à un certain âge. Oui, mais ça, j'ai déjà fait, moi, je connais. J'en sais rien. Restons ouverts, restons curieux. Dieu n'a-t-il pas choisi les choses faibles du monde ? Est-ce que les vieillards, les gens dans le grand âge, parce qu'ils seraient faibles, n'auraient plus leur mot à dire, ne pourraient plus porter du fruit pour le Seigneur ? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Dieu t'a choisi, toi, qui te crois peut-être inutile, qui te semble être vraiment une poussière, un grain de poussière. Il t'a choisi pour que tu confondes les fortes. Est-ce que tu le crois, ça ? Alléluia. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Amen. Alléluia. Oui, le Seigneur nous a choisi, quelle que soit notre condition, notre force, nos moyens. Il nous a choisi pour garder cette image de l'ouverture, de rester toujours dans la curiosité, dans l'émerveillement, dans l'attente. Hein, y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? Je voudrais qu'on regarde cette photo que mon épouse a prise. C'est dans l'avenue Jean Rieu. C'est une fresque qui a été peinte à la bombe. Vous savez là, comme font ceux qui sont spécialistes dans ça. C'est le mur d'une maison de retraite qui a avenue Jean Rieu. Alors, comme on peut pas la prendre, ouais, éteint. Ouais, je ne sais pas si on voit. Voilà. Elle est magnifique, cette fresque. Alors, on a été obligé de la prendre en trois fois, parce que comme elle est très longue, on n'a pas pu l'avoir en perspective, donc j'ai été obligé de racoler les bouts. Mais vous voyez, au milieu, il y a un enfant qui fait des bulles. Et puis, de chaque côté, il y a un homme et une femme d'un certain âge, ou d'un âge certain, qui la regardent émerveillée, en rigolant. Ben oui! Soyons émerveillés. Moi, je trouve, dans le regard de ces gens, ça m'a parlé. Chaque fois que j'attendais le bus, que j'étais là, je regardais cette fresque. Je disais, Seigneur, que je puisse garder ce regard sur la vie. Parce que ça va vous maintenir vraiment, je vous le dis, en bonne santé mentale, physique et spirituelle. Qu'on puisse garder ce regard simple, ce regard de foi, ce regard d'émerveillement, oui, comme l'ont les enfants. Amen. Voilà, je vais prier.